Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la marginalisation des franco-protestants dans la Nouvelle-France. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Vous écoutez présentement la 6e et dernière émission de cette série. Je continuerai à commenter des citations du livre de Rieul Duclos intitulé « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Nous avons vu lors de la 5e émission sur le sujet que des prêtres se convertissaient à l'Évangile et que de missionnaires sont venus en renfort aux franco-protestants d'Amérique. Nous avons terminé la 5e émission avec la question suivante. Comment expliquer que le protestantisme, qui avait donné de si fortes preuves de sa vitalité et qui progressait généralement en Europe, perdait du terrain au Canada? Car au commencement du 21e siècle, il n'y comptait plus que quelques timides représentants. Pour répondre à cette question, nous sommes obligés de remonter en arrière afin d'étudier les événements. Benjamin Soult écrivait il y a quelques années « Il n'y a pas de pays où la politique soit aussi mêlée à la religion qu'au Canada ». Il disait vrai. Ici, ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que la politique était mêlée avec les affaires de l'Église. C'était deux vases communicants. Mais la chose la plus étrange, c'est que les catholiques sont moins nombreux que les protestants à cette époque-là. À un moment donné, les protestants sont plus nombreux que les catholiques. À un moment donné, ils sont comme nez à nez, si on veut. Là, il y a un regain chez les protestants. Ils redeviennent plus nombreux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a dû se passer quelque chose pour qu'aujourd'hui, et même à l'époque de Duclos, lorsqu'on parle à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on voit que les protestants sont en minorité. Mais savez-vous quoi? C'est un joueur qui a fait la différence. Absolument, mesdames et messieurs. Et ce joueur, c'est nul autre que M. de Laval. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Son épiscopat, disent les historiens de l'époque, fut un des malheurs des temps. C'était le régime du bon vouloir. Ce qui était légal, c'était la volonté du despote qui commandait au palais épiscopal. Ça veut dire que c'était lui qui menait. C'était comme ça que ça fonctionnait. Mais ce qui arrive, c'est que, oui, effectivement, il y a du leadership, mais on pourrait dire même que c'est un homme qui exerçait de l'autorité ou de l'autoritarisme. Et c'est pourquoi Duclos va dire, bien inspiré, les protestants auraient pu tirer parti de la situation qu'avait créé le manque de tact et l'orgueilleuse ambition de l'évêque. Mais il n'y avait personne qui pût ou voulut se charger de cette mission délicate. Les catholiques moins nombreux à ce moment-là ne durent leur succès qu'aux manœuvres d'un clergé qui avait toutes les audaces et que n'embarrassait pas les scrupules de conscience. Aussi celui-ci s'ingénia-t-il à profiter des faveurs qu'il avait reçues de façon à pouvoir en exiger d'autres. L'évêque comprit que pour arriver à ses fins, il avait besoin des troupes bien organisées et il se mit à l'œuvre. Aux concessions qu'il avait obtenues, il fit ajouter de nouvelles et demanda qu'on lui accordât des produits de la dîme. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Mgr de Laval était un fin lobbyiste. Eh bien, il réussit à obtenir l'autorisation de construire un séminaire par un édit royal en 1663. Par contre, voici ce que nous dit Duclos. L'organisation d'un séminaire refusé aux protestants mais accordé aux catholiques permit à ces derniers le recrutement d'un clergé national. Les protestants, comptant trop sur les effets du sacerdoce universel, ne firent aucun effort pour assurer l'instruction religieuse. Or, vivre dans de telles conditions était presque impossible. C'était une faute irréparable. Lévité aurait pu assurer, dans la province de Québec, la prédominance du protestantisme tout au moins sa vie. On assure que sur le champ de bataille, il est des moments où l'inaction équivaut à la mort. Le protestantisme ne sut pas le comprendre. Il attendit trop de la puissance de la vérité qui ne fait son chemin dans le monde qu'en se servant de l'activité des hommes. Voyez-vous, ici, c'est un élément fondamental. Parce que les protestants croient à la puissance du Saint-Esprit et croient que l'être humain doit agir avec la force du Saint-Esprit. Et ça, c'est une vérité fondamentale, c'est une vérité biblique, c'est indéniable, parce que c'est la Bible qui l'enseigne. Maintenant, ce que ça produit dans certains milieux, c'est qu'il y a des gens qui n'agiront pas par peur de ne pas agir selon l'Esprit. Ils vont dire, si c'est moi qui agis, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a amené à le faire. On voit deux choses ici. Premièrement, la communauté protestante n'a pas trouvé un homme pour faire du lobbying auprès du gouvernement, auprès des instances gouvernementales, auprès des responsables ou des représentants du roi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ne se sont pas mobilisés pour assurer l'instruction religieuse, la formation de pasteurs, de leaders, la formation de responsables d'église. Même si les catholiques étaient moins nombreux que les protestants à ce moment-là, Monseigneur de Laval, lui, a fait le lobbying, il a été chercher les fonds, il a été chercher les dits. Qu'est-ce que ça l'a produit? Ça l'a produit un impact parce qu'il s'est reproduit au travers le séminaire. Duclos va pousser encore plus loin. Il dit, il eût pu faire au Canada ce que les puritains ont fait dans la Nouvelle-Angleterre et faire de cette nouvelle terre une rivale avec laquelle les États-Unis devraient compter aujourd'hui. En d'autres mots, il est en train de dire, effectivement, la Nouvelle-France aurait dû faire comme la Nouvelle-Angleterre, établir une terre où est-ce qu'on respecte la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion. Je continue. Les catholiques s'emparèrent de l'occasion qui leur était offerte et le succès qui couronna leur effort prouve bien qu'ils firent là un coup de maître. Et là, Duclos reconnaît, malgré qu'il est un protestant, malgré qu'il est partisan, il reconnaît qu'à ce stade-ci, ce sont les catholiques qui ont eu la meilleure stratégie. Et tout ça est parti d'un homme influent, d'un homme déterminé. Voici ce que les écrivains catholiques disent au sujet de Monseigneur de Laval. Les écrivains catholiques attribuent à sa haute naissance l'influence extraordinaire que l'évêque exerça sur le pays. Ce qui est plus exact, c'est qu'il avait à son service une habileté incomparable, qu'il était infatigable et qu'il faisait tout plier sous sa volonté de faire, qui eut raison de l'opposition des autorités civiles, des communautés religieuses et de quelques particuliers. Les nombreux édits de 1663, 1669, 1690, 1705 et les arrêtés du Grand Conseil attestent des discussions violentes de l'époque. Malheureusement, ces documents ignorent totalement les protestants. Étaient-ils disparus ou convertis? Pourquoi cet inexplicable silence? Passif spectateur des disputes dont ils n'attendaient rien, ils se préparaient pour l'exil. C'étaient les plus désespérés et les plus sincères. Quant aux autres, infime minorité, ils recevaient la visite du prêtre et comme il n'y avait pas de pasteur, ils recouraient à son ministère pour les mariages et les baptêmes de leurs enfants. Pauvres protestants de France, ils étaient comme des brebis sans berger, traqués sans pitié, dispersés sur toutes les frontières, quelques-uns ayant trouvé le repos dans l'hospitalité fraternelle de leurs co-religionnaires de la Suisse, de la Prusse, des Pays-Bas et de l'Angleterre. Mesdames et messieurs, il y a un cycle qui se répète. C'est typique des franco-protestants. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Les franco-protestants font leur place dans leur milieu, s'organisent pour bien vivre, mais savez-vous quoi? Ils ne s'organisent pas pour avoir un impact dans la société civile. Ce que les catholiques ont fait, mais savez-vous c'est quoi le résultat? Évidemment, vous allez dire oui, mais la Révolution tranquille a tout changé de toute façon. Mais il reste que néanmoins, il y a toujours plus de catholiques dans les bâtiments d'église que des protestants. Encore aujourd'hui. Mais je poursuis. Les Huguenots aimaient trop la patrie, sa langue et ses traditions glorieuses. Ils ne voulaient pas renoncer à toute espérance. Ils soupiraient après le clocher de leur temple. Ils espéraient que la liberté de conscience le serait un jour reconnue, car ils croyaient qu'au-dessus de la patrie et du drapeau, la foi demeure, laissant même les bourreaux. Il y avait un espoir, une espérance en Dieu. Et effectivement, si on est des gens de foi, c'est clair que notre espérance doit être en Dieu. Mais le problème, c'est que justement, sur le plan théologique, il faut faire attention de ce que notre théologie ne nous court-circuite pas et ne joue pas contre nous. Parce que Dieu nous a donné des habiletés, il nous a donné des dons, il nous a donné une intelligence, un savoir-faire, un discernement. Il nous donne accès à sa sagesse. Et c'est important, comme le dit l'apôtre Paul à son disciple Tite, au chapitre 2. les versets 9 à 11, c'est important qu'on puisse tirer notre épingle du jeu dans le siècle présent. Mais savez-vous quoi? Ce qui est grave dans tout ça, c'est que, comme je viens de le lire, les protestants aimaient la patrie, aimaient leur patrie, aimaient s'exprimer en français, mais on les a calomniés. Savez-vous sur quel plan? Exactement sur ce plan-là. Voici ce que dit Duclos. On a accusé les protestants d'avoir trahi leur patrie. C'est la calomnie la plus noire et l'injustice la plus criante. Voyez-vous ici, Duclos, là, il est fâché, il est indigné de ça. Jamais ils ne l'ont oublié. Malgré les horreurs de la tour de Constance, les massacres de la Saint-Barthélemy, les bûchers et les confiscations, ils restaient attachés à la France et ils entretenaient avec eux, ceux qui étaient restés au foyer, des rapports à la fois les plus fraternels et les plus touchants. Ces rapports étaient tels qu'ils ravivaient le sentiment religieux, encourageaient à la fidélité chrétienne et devenaient pour tous comme un sel puissant qui la gardait de la corruption. Wow! Là, Duclos, là, il est vraiment pas content. Et avec raison. À ce moment-là, la seule chose que voulaient les protestants, c'était de pouvoir vivre librement leur foi, pouvoir en parler librement, pouvoir discuter librement, sans magouillage, sans grenouillage. Savez-vous quoi? Un, ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont voulu. Et deux, on les a accusés d'avoir trahi leur patrie. Mais savez-vous pourquoi? Basé sur quoi? Une terre, une langue, une religion. Et donc, si on était d'une autre religion, on était des traîtres. C'était dans la mentalité de l'époque. Et si on résume le tout, mesdames et messieurs, les protestants n'avaient pas de leader pour faire du lobbying et tirer leur épingle du jeu. Ils ne se sont pas regroupés pour faire un front commun, puis ont été calomniés sur leur allégeance à la France. Donc, dans un premier temps, il n'y avait pas un dynamisme mobilisateur ou mobilisant. Ils n'étaient pas en mesure de tirer profit justement de l'influence qu'ils auraient pu exercer sur les autorités civiles. Ils ne sont pas regroupés pour faire un front commun pour mettre sur pied justement des séminaires, mettre sur pied des instituts bibliques, mettre sur pied des centres de formation de missionnaires, de pasteurs, d'ouvriers, de responsables d'église. Et là, parce que chacun était dans son coin, faisant du mieux qu'il pouvait, et je suis certain que dans leur communauté, ils faisaient un excellent travail. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était des hommes et des femmes riches, éclairés, paisibles et laborieux. C'est ce qui était la marque de commerce des Huguenots, des franco-protestants. Mais le problème, malgré leur bon comportement, malgré leur bonne façon de vivre, ils ont été calomniés afin qu'on puisse les percevoir comme des traîtres à la patrie. J'espère que cette mini-série vous a plu, a suscité chez vous de la curiosité ou a suscité en vous un désir d'aller plus loin. Mais évidemment, l'histoire se poursuit. C'est pourquoi je continuerai les lundis matins à commenter l'œuvre de Duclos pour garder le contact avec nos racines et notre histoire. Et donc, mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de clore cette émission et cette première série sur les franco-protestants en Amérique. Si toutefois vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net, leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!